j'approche de 80 ans et je finis d'écouter le magnifique témoignage de, je ne sais plus comment il s'appelle, cet homme de près de 90 ans qui nous raconte, tu ne peux pas savoir à quel point je suis ému. Merci Daniel.
Salut Daniel, c'est Benjamin de Hennebon. Bon, ben ça fait vraiment plaisir d'entendre des émissions comme ça, quoi, sur cet ancien résistant, qui est vraiment un bonhomme qui m'a refilé la grosse patate, là. Ça fait vraiment du bien, quoi, parce qu'il y a vraiment des fois où on n'y croit plus. Et j'espère que beaucoup de gens l'ont entendu. C'est un bon grand-père, quoi, pour notre génération, des gars comme ça. Allez, salut.
Merci, monsieur Jean-Pierre Vernant. Et je me demande si les minus qui nous gouvernent ne pourraient pas avoir honte en l'écoutant un peu. Allez, au revoir.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Jean-Pierre Durinci. Je viens d'entendre la fin de l'émission, puis ce papy qui dit « Bon, bah, je suis peut-être un vieux con de penser que le service public, faut le préserver et tout. » Bah écoute, si lui c'est un vieux con, bah moi je ne suis pas encore vieux, mais je suis déjà con, et il y a longtemps, parce que je pense pareil, tu vois. Je pense que plutôt que dire que nous sommes des gens imposés et faire la gueule parce qu'on paye des impôts, on devrait dire plutôt qu'on est des contributeurs, des contribuables heureux de contribuer. Hein. D'ailleurs, c'est dit que tout le monde devrait contribuer, fût-ce d'un euro quand on gagne pas sa croûte, quoi, qu'on est un peu dans la merde. Et puis en échange de tout ça, bah, les gros riches, les mecs qui vivent bien, bah, comme moi je vis bien, d'ailleurs je paierais peut-être un peu plus, et les gros hein, beaucoup plus. Ils seraient fiers de contribuer, non? Tu crois pas?
Oui, je m'appelle Jean Delors, je suis un professeur de philosophie universitaire à Toulouse. J'ai entendu l'émission d'aujourd'hui, donc j'aurais bien aimé éventuellement me procurer la bande de Jean-Pierre Vernant. Donc voilà. Et au demeurant, comme je suis depuis très longtemps et on anime une sorte d'école des philosophes où on utilise beaucoup Castoriadis, certaines fois les émissions de Mermet. Que j'aimerais bien aussi avoir, savoir si on peut avoir accès et comment, ou des cassettes, si vous le rediffusez, donc certaines de ces missions qui sont pour nous, bien sûr, les plus intéressantes et en tout cas qui nous évitent de trop désespérer, voilà.
J'écoute l'émission, là, sur le résistant avec Guy Ventil. Eh bien, moi, je me pose une question chaque fois que on a des émissions de ce type ou des récits de ce type. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on y avait été? Est-ce qu'on aurait eu le courage de résister à la propagande et de ne pas tomber dans le travers de ceux qui ont collaboré activement? Est-ce que on aurait eu le courage de ne pas être passif, de regarder passer et de ne rien faire? Voilà, c'était Fabrice. Au revoir.
Philippe de Toulouse, juste pour dire que la résistance, ce n'est pas quelque chose de facile. La résistance, c'est quelque chose de très contraignant. Et on est une bête traquée, et je me souviendrai toujours, j'avais 18 ans, et j'ai vécu dans un pays en guerre civile à Beyrouth. Et résister, eh bien, c'est pas simplement une action que l'on veut mener, un combat pour des idées, ou pour des gens, ou pour sauvegarder quelque chose, mais c'est aussi sauvegarder la vie des personnes qui nous entourent, c'est tous les risques que les autres peuvent encourir, c'est la responsabilité de nos actes, et la responsabilité de nos actes par rapport à autrui. Et des idées et se battre, avoir des idées c'est facile, mais avoir le courage de se battre c'est très difficile. Merci.
Ah, une belle réflexion sur la résistance, tout ça, j'ai voulu garder tous ces messages, tous vos messages, comme un hommage à Jean-Pierre Vernant, qui était notre invité hier, effectivement, 90 ans de résistance, Jean-Pierre Vernant. Et aussi, c'était pour le plaisir de faire entendre des voix complètement différentes, celle de ce premier auditeur qui a 80 ans, Benjamin qui est tout jeuneau, qui dit ça nous a refilé la patate, le prof de philo, le partisan de l'impôt, et puis qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, et puis voilà la résistance, voilà, pour montrer la variété formidable des oreilles qui nous écoutent. C'était pour se faire plaisir, nous aussi nous refiler la patate pourquoi pas de temps en temps. Aujourd'hui on va se balader dans Paris, dans Paris, Paris Asie. Il y a un Paris noir, il y a un Paris arabe. Vous vous souvenez qu'on a fait il y a quelques semaines les reportages dans les traces arabes qu'on peut observer dans Paris, des présences évidemment aussi. Et là, c'est la présence asiatique dans Paris, à l'occasion de la sortie d'un bouquin de Pascal Blanchard et Éric Dereau, 150 année de présence asiatique dans la capitale. Alors c'est toute une promenade sur des traces souvent abolies, souvent évanouies, souvent oubliées de cette présence et des fantasmes qui s'y rattachent. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Savez-vous qu'il y a 260 élus de la Creuse qui ont démissionné de leurs fonctions pour protester contre la dégradation et même la destruction des services publics dans leur région qui amènerait à la désertification? Savez-vous qu'il y a un appel de nombreux élus également pour le non à la Constitution, car à travers la Constitution s'exprime la destruction des services publics, le démantèlement des droits ouvriers nationaux, à savoir les conventions collectives, etc. Pourquoi nous parlez-vous toujours de la GCS et jamais de la Constitution européenne, du traité de Maastricht, qui sont les aspects les plus pratiques et qui s'appliquent dès aujourd'hui, qui sont, parce que la privatisation, elle est en train de se passer aujourd'hui. Alors vous me parlez, je trouve ça étrange que vous n'évoquiez jamais le reste et que vous ne disiez pas non plus la position d'attaque qui est plus qu'ambiguë sur la question de la Constitution européenne. J'attends des réponses à mes questions. Merci. Au revoir.
Allô, je suis Jacqueline de Marseille. J'habite sur les collines de l'Estac, là où on a tourné Marius et Jeannette. C'est un petit paradis, mais il y a un hic. Depuis 2 ans, les habitants de Mouropiane, c'est un quartier de l'Estac, se battent contre le traitement des déchets pétroliers par l'entreprise TPA. Installée depuis plusieurs années, TPA s'est contentée pendant longtemps de pomper et de stocker les déchets en provenance des bateaux, ce qui est une activité indispensable pour une mer propre et personne n'y trouvait à redire. Depuis 2 ans, TPA s'est mis à traiter sur place ces déchets d'hydrocarbures, ce qui est une activité nocive et dangereuse et qui devrait se faire dans un site classé, contrôlé et soumis à des normes précises, pas en plein bassin d'habitation. Depuis juin 2002, les riverains se plaignent d'odeurs infectes, mais aussi de migraines, de nausées et d'allergies. Après plus de 2 ans et d'essais de solutions, TPA pue toujours. L'été 2004 a été infernal et TPA continue à fonctionner même pendant les pics d'ozone. Il est temps d'en finir. On manifeste samedi 20 novembre à 11h devant la porte 5 du port à Mouropiane. Venez nombreux les Marseillais. Au revoir.
Ouais, salut à tous. Une fois et pas coutume, j'aimerais remercier un flic aujourd'hui dans ton émission, Daniel, parce que hier on était avec les SDF devant la gare de Saint-Raph. Il y a un flic de la municipale qui s'est arrêté pour indiquer à un des SDF qu'ils allaient retrouver son sac avec les papiers à l'intérieur. J'en profite aussi pour remercier les pompiers de Saint-Raphaël qui sont venus récupérer un gars qui était vraiment mal en point pour qu'il puisse être hospitalisé. Alors, on en déplaise aux tenants de l'humanisme républicain universel. Parfois, il y a plus d'humanité dans le regard d'un flic que dans la fausse compassion des élus de la gauche plurielle. Je lance donc du coup un appel à tous les retraités de la gendarmerie, de l'armée et de la police. Si votre conscience vous travaille un petit peu, si vous avez du mal à dormir, je sais pas, pour avoir tabassé, tué, torturé, eh ben, venez vous soulager là, venez vous soulager la conscience. Tous les lundis, on est à 19h devant la gare de Saint-Raphaël. On est de plus en plus nombreux, on reste de plus en plus longtemps et ça se passe de mieux en mieux. Puis à l'approche de Noël, il me vient une question. Je voudrais savoir si l'héritage du siècle des Lumières, il n'aurait pas engendré, par exemple, le siècle des ampoules, quoi. Enfin, bon, merci à Céline et son Lascar et à tous les habitants de Montfort qui nous ont fourni des duvets et des couvertures en grand nombre. On a pu en distribuer une trentaine hier soir. C'était superbe, ça prend vraiment bien forme et c'est tous les lundis à 19h. Comme on commence à être nombreux, on pense faire une deuxième tournée dans la semaine. Ciao, viva, portez-vous bien.
Salut Daniel, bah là c'est Rémi, je rentre de la fac et j'espère que je vais arriver à l'heure pour l'émission. Mais je voulais te dire donc que c'était de mieux en mieux, que je trouvais que c'était bien de voir de plus en plus de mômes qui écoutaient ton émission. Et puis un autre truc, je suis allé donc l'autre fois aux états généraux à Bobigny, vu que donc, je suis à la fac de Bobigny, j'habite à côté. Et en fait, ben, c'est quand j'en ai parlé après dans mon entourage à la fac, c'est vrai que déjà les états généraux, ils savaient pas ce que c'était. La GCS, ils savaient pas non plus. Donc voilà, quoi. Il y a vraiment du boulot de ce côté-là. Et puis ben, mais à part ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et puis ben, j'ai vu Suzanne George qui était aussi une femme très intéressante. Et j'ai pris quelques bouquins. Et je pense que il faut vraiment se bouger de ce côté-là. Voilà, ciao.
L'influence de nos conquêtes coloniales sur le goût artistique de la métropole s'affirme chaque jour davantage. Les dames de la meilleure société raffolent des coiffures à l'orientale, des bijoux, des pièces d'orfèvrerie et des ivoires africains. Nombreux sont les appartements parisiens dont les papiers peints exaltent un exotisme de ballet. Et que dire de ces gravures, ces estampes ou ces tableaux brodés qui reproduisent inlassablement des épisodes de Paul et Virginie, chef-d'œuvre du roman colonial? Tous ces témoignages, pour touchants qu'ils soient, ne restent pas moins la preuve indiscutable de l'œuvre considérable de la Troisième République dans nos colonies.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, Paris, terre d'Asie.
Flight number 2. Arriving from New York.
Un camembert bien fait.
Un camembert bien fait.
À Paris.
À Paris.
On aime beaucoup le camembert.
On aime beaucoup le camembert.
C'est un fromage bien gras.
C'est un fromage bien gras.
On le fabrique avec le bon lait.
On le fabrique avec le bon lait.
De Normandie.
De Normandie.
Regardez une Parisienne. Acheter un camembert.
Acheter un camembert.
Elle demande toujours.
Elle demande toujours.
Est-ce qu'il est bien fait?
Est-ce qu'il est bien fait?
Alors.
Alors.
L'épicier lui met le fromage.
L'épicier lui met le fromage.
Sous le nez.
Sous le nez.
Il sent fort.
Il sent fort.
Donc il est bien fait.
Donc il est bien fait.
Et la dame emporte son camembert.
Et la dame emporte son camembert.
À midi.
À midi.
Son mari.
Son mari.
Il sent fort.
Il sent fort.
Elle demande toujours.
Elle demande toujours.
Est-ce qu'il est bien fait?
Est-ce qu'il est bien fait?
Alors.
Alors.
Son mari.
Son mari.
L'épicier lui met le fromage.
L'épicier lui met le fromage.
Sous le nez.
Sous le nez.
Va en manger un gros morceau.
Va en manger un gros morceau.
Avec un verre de Bordeaux.
Avec un verre de Bordeaux.
Ou de Bourgogne.
Ou de Bourgogne.
C'est un bon dessert.
C'est un bon dessert.
Merci.
Voilà, c'était à Shanghai en 1999, dans une ruelle, dans une grande salle, des hommes, des femmes plutôt jeunes apprenant le français, bien sûr, pour la culture, bien sûr, pour le plaisir, bien sûr, quelle belle langue que le français. Peut-être aussi avec l'idée un jour de nous rendre visite dans notre belle capitale, de voir notre tour Eiffel, de voir couler la Seine. Et peut-être aussi de rester parmi nous. Ça arrive. Il arrive que les Chinois de Shanghai ou d'ailleurs viennent nous rendre visite et restent parmi nous. Eh bien, c'est à eux qu'on va s'intéresser, à ceux qui sont restés. Et pas seulement aux Chinois. Ce livre qui sort, le Paris Asie, a l'ambition de relever un peu partout dans notre grande capitale, 2 millions d'habitants, c'est-à-dire à l'échelle de l'Asie, de l'Extrême-Orient et de la Chine, une toute petite ville, 2 millions d'habitants, eh bien les traces de cette présence chinoise et asiatique en général. Alors évidemment, c'est dangereux d'essayer de regrouper toute l'Asie dans un seul livre et dans un seul projet, dans une seule capitale, si on veut bien considérer que l'Asie commence à Istanbul, c'est du moins ce qu'on nous apprend à l'école, et qu'elle finit là-bas, sur les rives du Pacifique. Ça en fait des peuples, ça en fait du monde, et ça en fait des cultures souvent antagoniques, qui se sont combattues et qui... Même si elles nous apparaissent aujourd'hui à nous rapidement identiques, ont des passés souvent très polémiques, on va dire. Alors c'est dans cette direction qu'on va se promener. Et le mot qui va être le plus employé, c'est fascination. L'Extrême-Orient nous fascine extrêmement. C'est pratique ce mot fascination parce que ça veut pas dire grand chose. Ça veut dire que ça nous intéresse beaucoup, mais ça veut pas dire grand chose parce que c'est un mélange à la fois d'admiration, d'enchantement pour l'Orient extrême et en même temps de peur. Une peur qui s'appelait péril jaune. Assez vite, on a eu peur du péril jaune. Et puis, il y a eu aussi autre chose, une très grande admiration aujourd'hui, abolie aujourd'hui, périmée, qui a été celle du petit livre rouge. Et puis une troisième admiration, qui est celle du lotus bleu, des fantasmes, des clichés de notre enfance. Alors voilà, c'est avec ces trois couleurs qu'on démarre aujourd'hui, le lotus bleu, le petit livre rouge et le péril jaune. Paris, terre d'Asie.
Dans un rêve asiatique. C'est la pagode, le fameux cinéma La Pagode. Alors devant nous, il y a les feuilles d'un ginkgo qu'on peut encore tourner au jaune. Il y a une petite lanterne en ciment. Et on distingue, sous les plastiques, sous les bâches, parce qu'apparemment le bâtiment est en très mauvais état, une espèce de temple, on ne sait pas trop quoi dire. Alors comment ce bout d'Asie est arrivé chez nous à Paris ?
À la fin du 19e, un monsieur extrêmement fortuné, qui avait des grands magasins qui existent toujours, qui était un peu l'exemple même de ces humanistes de la fin du 19e, qui mettaient leur fortune au service de l'humanité, entre guillemets. Et lui avait décidé, je crois pour faire plaisir à sa belle, de sacrifier à la mode complètement folle qui était alors en vogue à Paris, la vogue du japonisme. D'abord, il y avait d'abord un peu de chinoiserie, puis ensuite ce qu'on a appelé le japonisme. Et il avait fait reconstituer moitié avec des pièces originales qu'il avait fait venir à grand prix, moitié avec des pièces un petit peu imaginées, ce bâtiment, une sorte de folie comme on les appelait au 18e. Et puis cet endroit est resté. Et alors il lui est arrivé un destin assez curieux, c'est que juste à côté, je ne sais pas s'ils se sont installés là exprès ou pas, mais juste au numéro à côté, ce qui est aujourd'hui le conseil régional d'Île-de-France, eh bien était la légation de Chine. Et d'ailleurs très souvent, les diplomates chinois se faisaient prendre en photo devant ces sculptures asiatiques pour donner l'illusion évidemment que tout ça faisait partie d'un fragment du territoire chinois.
C'est-à-dire qu'avant d'avoir les Asiatiques, on avait déjà toute une imaginaire.
Ah oui, énorme. Il est clair sans doute que l'Asie a d'abord été précédée de l'imaginaire qu'on portait sur elle, des reconstitutions qu'on pouvait mettre en place à la fois mentalement et réellement de ce qui était l'Asie rêvée.
Saïgon, dans un grand soleil d'or, c'est le plus joli port, dans le plus beau décor. Saïgon, c'est l'escale d'amour, où l'on vient quelques jours, et l'on reste toujours. Car les garçons savent si bien murmurer « je t'aime ». Et les mousmets ont dans leurs yeux bridés des poèmes. Saïgon, dans tes vertes maisons, naît une floraison d'amour et de chansons.
Fusil Solidor, magnifique, hein, ce petit extrait des mouchemets avec les yeux bridés. Voilà des clichetons. Alors, oh là là, monsieur des clichetons. Oui, mais tous ceux qui vous disent on va aller au-delà des clichés, au-delà des fantasmes, sont des gens qui veulent remplacer les fantasmes par leurs fantasmes, des clichés existants, par des clichés qu'ils apportent. Et c'est particulièrement flagrant pour ce qui concerne l'Asie en général, l'Extrême-Orient qui nous intéresse. Et là, à Paris, rue de Babylone, la pagode, ce fameux cinéma de la pagode est vraiment le lieu même des fantasmes. On est là avec l'un des auteurs de ce bouquin, Le Paris Asie, Éric Dereau, qui nous a donné un coup de main récemment pour évoquer le général Mangin. Là, c'est l'Asie. Alors, je disais tout à l'heure, 150 années de présence chinoise à Paris. On évoquera évidemment l'arrivée des Chinois, notamment de Wenzhou, de la région de Wenzhou au début de ce siècle. Les Chinois utilisés et recrutés pendant la Première Guerre mondiale. On en a déjà parlé dans certaines émissions. Mais l'intérêt pour l'Asie extrême est bien plus ancienne que ça, mais ce qui est intéressant, il faudrait faire l'histoire des fantasmes. Et pour ça, il faut évidemment commencer avec le grand Marco Polo.
Il est clair que la Chine, elle fascine depuis Marco Polo. Depuis le 16e, on sait qu'il y a une Chine à laquelle on prête des vertus inouïes, et sur le plan des idées, sur le plan des mœurs, et sur le plan des produits. Hein, c'est vraiment la myrte, l'encens, la soie, enfin les produits, les pierres, toute cette espèce de mirage asiatique qui va toucher très fort la cour, Versailles, le cabinet chinois, les estampes, la toile de Jouy, la laque, enfin tout ça. Ça joue un rôle extrêmement important. Et ensuite, ça va être remplacé par le japonisme, qui lui aussi va être déterminant. Genre, quand on voit l'influence du japonisme sur Monet, sur Van Gogh ou sur Gauguin, c'est inouï.
Qui reproduisait des estampes de Kusai et d'autres.
Absolument, avec le trait, enfin toute une école du trait, la réduction des signes. Donc ça joue un rôle essentiel. Ça, c'était, je dirais, pour l'influence artistique. Donc le Japon a très vite un peu chassé la Chine, et puis ils ont fini par tous les deux s'abattardir pour devenir un produit identique. Et c'est un peu pareil dans la hiérarchie des considérations. D'abord, les Chinois, on les a pas vus. On a vu les potiches, on a vu les paravents, on a vu les lacs sur lesquels il y avait des petits Chinois représentés, mais physiquement, on les voyait pas. Les Japonais, c'est un peu pareil. Il a fallu attendre ces expositions pour en voir quelques-uns. Et donc, en termes de perception, on voit très peu les Asiatiques. On les voit très peu et très vite, on va un peu les mélanger. De toute façon, pour le bon public, là, on ferait un micro-trottoir tous les deux, on dirait tout ça, c'est des jaunes ou des bridés. Et ce sentiment est renforcé par deux choses extrêmement importantes qui vont chaque fois, je dirais à chaque fois finalement, les fantasmes culturels sont tout de même, même s'ils sont des fantasmes, sont tout de même plus agréables à supporter que les fantasmes politiques. Je veux dire par là que tout cet imaginaire dont la pagode vers laquelle nous sommes témoigne, etc.
Avec ses bambous.
Voilà, c'est plutôt chaleureux, ça donne un envie de connaître, d'échanger et d'aller voir. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la politique rattrape à chaque fois ses représentations et les tire vers le bas. Je m'explique. En 1899, il y a cette chose qu'on va appeler la révolte des boxeurs. Les célèbres 55 jours de Pékin, avec les blancs encerclés par des hordes.
Pour résumer, la révolte des boxeurs,
c'est un mouvement de patriotes chinois qui se soulève contre le fait que la Chine est totalement en train d'être dépecée par les puissances occidentales. Et les images ici vont frapper l'opinion. Hein. C'est les sacrifices des 100 000 supplices, les gens accrochés par des clous, les têtes coupées. Alors tout d'un coup, il y a une première alerte qui est finalement ces jaunes qu'on ne croyait que réduits à leurs produits commerciaux, à leurs potiches, tout d'un coup se révèlent capables de mettre en échec, après tout, une volonté occidentale, une volonté blanche. Et puis le deuxième coup de semonce, ça va être la défaite russe devant les Chinois en 1905, où là, vraiment, on va se dire, alors, les Japonais, à leur tour, émergent. Et c'est pas un hasard si à ce moment-là, on commence à parler de péril jaune. Et sort le bouquin du capitaine Denry, alias Drian, député des Vosges. Et tout d'un coup, on va commencer à voir naître cette idée d'invasion de péril jaune. C'est-à-dire que tout d'un coup, de gentilles petites figurines décoratives, de clichés exotiques, on va passer à des races dangereuses, se reproduisant comme des lapins, et donc qui vont un jour ou l'autre nous envahir. Et ce stéréotype-là, finalement, va perdurer. Et on va s'apercevoir qu'il y a un autre phénomène qui est amplificateur de cette paranoïa de l'invasion, c'est que avec la guerre vont arriver non seulement des régiments de soldats coloniaux, indochinois, africains ou maghrébins, et puis également des milliers, des centaines de milliers de travailleurs. Parce qu'il y a des centaines de milliers de travailleurs chinois, qui donc vont s'insérer dans la classe ouvrière. Voilà. Et par conséquent, l'image du prince exotique va se transformer instantanément en image du lumpen.
La fourmi, quoi.
La fourmi laborieuse, et qui en plus arrache un peu le pain de notre bouche. Donc on voit bien là le mouvement de basculement, qui est donc une stigmatisation de l'autre. Il est clair qu'en 1930, la vision de l'asiatique, elle n'est plus du tout celle du début du siècle.
C'est quand ça ?
En 1935.
Tout jeune, là, vous avez 20 ans, jeune, devant la tour Eiffel qui avait à peine 46 ans à l'époque.
Ah, maintenant, il est en centenaire. Hein.
Voilà.
Ouais.
Et puis, à l'époque, il y avait encore, c'était sur le Trocadéro, il y avait encore des grandes sculptures d'animaux qui a plu. Là, c'est un grand rhinocéros.
Rhinocéros.
Et il y a vous, tout jeune, tout avec les cheveux gominés en arrière, un petit costume noir. Hein. Est-ce que les Français vous ont adopté sans difficulté ?
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, une grande partie de la population y gardait quand même une idée assez caricaturale du chinois.
C'était le péril jaune.
Le péril jaune, avec une natte, un visage jaune. On appelait des jaunes. Mais est-ce qu'on est vraiment jaune? Enfin, je ne sais pas. Ils croyaient que j'étais japonais. Tout le monde me prenait pour un japonais. Parce que j'habillais comme tout le monde.
Parce que vous n'aviez pas la tresse et le chapeau pointu.
Voilà. Ça ne pouvait être qu'un japonais.
Je l'aurais étranglé de mes mains, dit Monsieur Liang avec ses 88 ans. Et oui, 88 ans. Et ça nous renvoie à quand même un grand pan de mémoire. Alors là, on est devant la pagode. On est on disait aussi les japonaiseries et les chinoiseries. On est dans tout ce côté, on va dire, mondain, l'enchantement mondain, on va dire, face à cet Orient extrême qui nous fascine, que nous essayons de conquérir, que nous allons conquérir. On va conquérir toute le sud-est asiatique. À défaut de conquérir véritablement la Chine tout entière, on se contentera de quelques comptoirs et de la conquête de l'Asie. Mais je le disais tout à l'heure, on a donc des Chinois qui, au début du siècle, arrivent à Paris, puisque là on s'occupe de Paris, hein, on se limite à Paris. On ne parle pas de toute la France, parce que ce serait une toute autre histoire. Il faudrait faire une histoire particulière de l'Asie à Marseille, par exemple. C'est toute une autre histoire. Mais là, on s'en tient à Paris. Et y a un Parisien qui a arpenté, Dieu sait s'il a arpenté de jour comme de nuit, et surtout de nuit, cette ville, et qui a rendu hommage à ces étranges étrangers. C'est Prévert, évidemment, qui rend hommage, qui évoque les Kabyles, les cordonniers de Cordoue, les enfants du Sénégal et les enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendit autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Eh bien, ces marchands de jolis dragons d'or faits de papier plié, tabliers. Il venait souvent d'une ruelle qui a disparu à côté de la gare de Lyon à Paris et qui s'appelait l'île aux Chalons. Et c'est là qu'on va, c'est là que l'histoire commence.
Alors on cherche pour la
passage Gabois.
On va aller la trouver.
Parce que là, on est dans un coin de Paris, pas très loin, vraiment un jeu de pierre de rue Montgallet et de ses ordinateurs.
On a fait quoi, 200 mètres entre la rue Montgallet et on est en train d'arriver entre le passage Gadebois. On n'est pas tellement loin du palais Omnisport de Bercy, derrière la gare de Lyon. Et on a à la recherche des restes, en fait, de ce qui était l'ancien quartier chinois de Paris, qui était entre rue Chalon, où 2000 à 2500 Chinois, on n'a jamais très très bien su combien il y avait dans ce quartier-là, et tous les petits colporteurs, et les premiers restaurants, mais aussi les premières teintureries, les premiers pédicures. S'installer ici, et donc la plupart des associations ont eu leur statut ici. Je crois que l'association des travailleurs chinois de France, c'était rue Chalon, à l'époque, 1919. Donc, vous voyez.
C'est toute cette zone de l'île aux Chalons qui a été complètement rasée au début des années 80.
Mais encore que je pense que quand on va arriver à remettre la main sur le petit passage Raguineau, lui, le passage Raguineau a été peu refait. Et il y a d'ailleurs un film fantastique des actualités Gaumont, le seul, à mon avis, qu'on ait pu retrouver aujourd'hui et qui existe, tournant en 1933, donc passage Raguineau, où on voit la caméra quasi posée au milieu, et je vous assure qu'on a l'impression d'être à Shanghai en 1930. C'est-à-dire que
ici, c'était le premier
Chinatown parisien, véritablement, alors qu'il n'avait pas que cette rue-là. On va y aller tout à l'heure, il y avait aussi la rue Chalon, parce que c'était vraiment un quartier communautaire où on vivait. Vous aviez grosso modo peut-être 1000 colporteurs sur Paris.
Au milieu
des années 20. Ce qui est énorme, parce que c'était vraiment le premier métier fait par les Chinois de Paris, et aussi des Vietnamiens, bien entendu, pas que des Chinois, et qui était vraiment l'activité majeure.
Mais ils venaient d'où ces Chinois ?
Alors pour la plupart, ils venaient du Xinjiang, du Wenchu. C'était deux régions de Chine où il y a toujours une très très forte immigration vers la France. Mais beaucoup aussi, et ça on l'a oublié, étaient des gens qui étaient restés. On estime aujourd'hui, les chiffres officiels sont de 3000 personnes. En réalité, on se rend compte avec les effectifs anglais et français, donc des Chinois qui étaient venus appelés par contrat pendant la guerre 14-18 pour aider en fait les armées alliées, françaises et chinoises. Ils sont 140 000 arrivés au front. 10 000 vont être prêtés à l'armée américaine. Sur ces 140 000, on peut estimer que 5 à 6 000 en réalité vont rester. Ils ne veulent pas rentrer au pays après le contrat de travail, être restés 3-4 ans à se battre dans les tranchées. Ils ont très clairement fait les plus sales boulots de la guerre. C'est-à-dire, pour donner un exemple, leur rôle c'était de creuser les tranchées, de récupérer les cadavres complètement éclatés après les bombardements. Certains sont morts au front. Il ne faut pas oublier qu'il y a des cimetières, notamment dans l'est de la France, où on voit des 600, 700, 800 tombes de Chinois. Et donc c'est cette première génération qui s'installe. Donc Camille, ça c'est intéressant, de Chinois, des petits hommes de labeur, quoi, qui sont partis sous contrat, ils savaient pas trop où ils allaient en Europe parce qu'ils avaient besoin de leur famille, ils sont partis en 1916-1917. D'autres vont rester que quelques années à cause de la crise économique et des difficultés à la fin des années 20 de trouver du travail. Mais c'est eux qui constituent, avec les migrants qui arrivent notamment, ce qu'on appelle les étudiants ouvriers. Le mouvement étudiant ouvrier dans les années 20 qui va grosso modo faire venir 1000 à 2000 Chinois par an venir travailler ici. Deng Xiaoping, Chu Enlai, ils font partie de cette génération. Ils se croisent ici. Là où on est actuellement, Deng Xiaoping et Chu Enlai, ils se parlaient certainement à 4h de l'après-midi, un samedi après-midi. Ils travaillaient, ils étaient ouvriers, étudiants ici dans la ville. Deng Xiaoping arrive à l'âge de 16 ans. Il faut voir cette immigration. Donc, va se croiser donc deux vagues d'immigration. Une vague d'immigration issue de la Première Guerre mondiale qui reste. D'autres qui arrivent avec le mouvement étudiant ouvrier. Et puis d'autres qui arrivent via l'Indochine, cachés dans les cales des bateaux, comme travailleurs ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a un frère, un cousin qui s'est installé pendant la guerre, qui lui dit, écoute, Paris est une ville où on peut faire des affaires, tu devrais venir. Donc Paris, région parisienne, on peut estimer qu'au milieu des années 20, on a entre 7 et 8 000 Chinois. Avec ça, vous associez peut-être 3 à 4 000 Vietnamiens. Donc c'est une communauté d'une petite dizaine de milliers de personnes, et très contrôlée. C'est-à-dire vous aviez à côté des usines Renault des campements. Le campement des Chinois, des Indochinois était là. C'est quasi des campements surveillés par la police, où on évite, et il y avait les petits hôtels, c'était au bon plaisir du travailleur et autres, qui étaient des hôtels à 100% de communautés chinoises à l'intérieur, comme ici on se trouve. Mais on voit, c'est assez surprenant, c'est qu'il n'y a même pas une plaque commémorative, il n'y a même pas un lien qui nous ramène à cette histoire.
Alors que ce que vous disiez, ici dans cette petite ruelle, à moitié en chantier avec quelques voitures où personne ne passe, les pères de l'indépendance chinoise se sont croisés.
Exactement, et nous sommes ici dans le lieu de mémoire principal des Chinois de Paris. C'est-à-dire que c'est ici qu'est né, d'une certaine manière, cette identité asiatique de Paris, et il reste rien, aucune trace. Bon, d'accord, c'est un quartier qui a été complètement rasé, qui a vécu nombre de vicissitudes, mais on pourrait imaginer qu'au moins dans un des angles de la rue, on retrouve notamment une plaque ou au moins un document. Il n'y a plus rien, plus aucune trace de la ville. Regardez ces jeunes Chinois qu'on a rencontrés tout à l'heure, aucun sait qu'à moins de 200 mètres d'eux, et d'une certaine manière, naît l'identité asiatique de Paris. Même les gens qui vivent dans cette rue, si on interroge n'importe quelle personne, il n'y a pas de souvenir puisqu'il n'y a plus rien qui le montre.
Thank you.
des cheveux noirs qu'elle lise, un parfum subtil et pénétrant qui fait rêver de délice. Lorsqu'elle trottine, espiègle et mutine, fait part de charmants et petits sauts. Un nez minuscule, deux yeux en virgule, près de deux coups de pinceau. Chinchilou, chinchilou, fille d'Asie, ton charme, ton drap doux, ta poésie, te font une adorable beauté, fleur de thé, qui fait devenir les hommes fous. Chinchilou, tes bijoux, tes colliers et tes breloques, ta maison en papier, au ton baroque, font qu'on voudrait vivre près de toi, en chinois, car on t'aime plus que tout. Chinchilou.
Chinchilou, voilà une des innombrables chansons qui accompagnent cette présence et cet exotisme, souvent de pacotille. C'est, encore une fois, l'exotisme de pacotille, c'est l'exotisme de l'autre. Hein, et on veut toujours remplacer un exotisme par un autre. Une présence donc asiatique dans notre Paris. Et là, en l'occurrence, l'évocation de la présence chinoise. Quoi de commun entre ces asiatiques à nos yeux, eh bien, c'est invisible et invasion. Ça pourrait être les deux mots qui correspondent, une espèce de trouille, de peur de l'invasion qu'on vient d'évoquer avec ce péril jaune. C'était il n'y a pas si longtemps, si vous vous souvenez, dans la bouche d'un ou d'une ministre qui évoquait ces populations travaillant comme des fourmis. Donc on voit bien que la trouille est restée. Et puis il y a cette invisibilité, cette transparence qui sont les caractéristiques de nos fantasmes, de la façon dont nous projetons nos regards sur ces Asiatiques de Paris. Et puis, bien sûr, il y a un rapprochement. Très souvent, le rapprochement, la connaissance se fait par la nourriture. Je me souviens des premiers restaurants chinois au Quartier Latin. Il y en avait depuis très longtemps, mais je me souviens du moment où les restaurants chinois ont éclaté dans le Quartier Latin, se sont multipliés, notamment à Maubert, etc., dans ces quartiers-là, au début des années 60. Comment on peu à peu on s'apprivoisait, et c'était notre façon de sentir et de peut-être de mieux comprendre ces lointains, cet Orient extrême.
On était à un moment, je le rappelle quand même, que quand vous constatez que la quasi-totalité des responsables, à part Mao, du Parti communiste chinois étaient présents à Paris à cette époque-là.
Pareil pour le Parti communiste vietnamien.
Exactement, tout le monde connaît l'histoire de Chimine, c'est quand même à Paris qui fait ses classes avant d'aller à Moscou en 1925. On constate quoi? Que ici, quasi en similitude avec la Chine, le Parti communiste, représentant quasi les Chinois d'Europe, va s'installer ici et va être fondé au Bois de Boulogne dans les mêmes années. C'est-à-dire que ici, il y a une sorte de mélange des gens. Ho Chi Minh donnait des cours de marxisme-léniniste à Deng Xiaoping et à Chuen Lai. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette époque, et ces années 20, où Paris était vraiment l'expression capitale du monde n'est pas fausse à dire, mais c'était aussi la capitale des luttes en cours. Et ça, c'est assez fondamental à comprendre. C'est qu'on a dans un bouillonnement culturel, intellectuel, politique, aussi d'ailleurs de populations et de leaders politiques venus d'Afrique noire, des Antilles ou du Maghreb, qui se trouvent dans Paris. Donc on a deux aspects qui se superposent au même moment. Une vie économique intense où ils s'intègrent dans la ville et ils développent les petits boulots qu'on leur laisse. Oui, des petits boulots à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ou l'usine, on pense qu'il y a, ou vraiment une vie ouvrière extrêmement difficile. Mais en même temps, c'est là que se forme une culture politique, une dialectique politique qui va quasi entraîner l'Asie du Sud-Est dans 70 ans d'une histoire douloureuse jusqu'aux indépendances et la liberté avec l'Amérique et la guerre du Vietnam. C'est ici que se fondent les fondements. Et pour la Chine, Laos, Cambodge d'ailleurs pareil, n'oublions pas que Pol Pot, comme les grands leaders laotiens, étaient à Paris, et que de l'autre côté va se fonder quand même le destin de la plus grande nation aujourd'hui sur Terre, la Chine. Et c'est ici que ça se passe, dans la rencontre de ces hommes. On a du mal à imaginer que dans ce petit quartier où il n'y a plus de traces, c'est pratiquement construit le destin de la plus grande nation au monde aujourd'hui, la Chine.
Alors, il y a plusieurs sortes de Chinois. Il y a des Chinois qui travaillent ici. Ceux qui sont restés, depuis la Première Guerre mondiale. Hein,
Monsieur Liang.
Qui se sont mariés, qui ont trouvé du travail, ou qui font un petit commerce. Il y avait les blanchisseries à cette époque-là, les restaurants. Alors, il y a aussi pas mal d'étudiants. Il y avait même une association d'étudiants. Alors, de tous les Chinois que je contactais, que je connaissais, il y a une grande diversité d'opinions. Vous avez beaucoup de personnalités du Parti communiste chinois, puisqu'ils étaient là dans les années 20.
Deng Xiaoping, Zhou Enlai.
Zhou Enlai, tout ça, 1920, 25. La France était un peu le berceau de ces idées un peu révolutionnaires. La France était réputée très libre. Hein. Et puis vous avez une autre catégorie de Chinois qui sont tout à fait de l'opposé. Hein.
Ceux de l'opposé, c'était Kuomintang.
Oui, il y a le Kuomintang, et puis il y a encore pire. Hein. Il y en a qui sont carrément des fascistes. Parce que Kuomintang était nationaliste.
C'était Sun Yat-sen, puis après Chiang Kai-shek.
Alors,
c'était des époques d'intense activité politique.
Aussi bien dans la communauté chinoise ou que dans le français. Alors, en France, il y avait le Front Populaire, il y avait les Croix de Feu, il y avait les Cagoulards. On ne sait pas où se donner de la tête. J'avais des idées de gauche, j'avais plutôt la sympathie pour la gauche, mais je n'étais pas actif. Hein. Moi, je suis venu en France pour étudier, et non pas pour faire de la politique ou faire de la révolution.
Cette histoire-là, est-ce qu'elle est connue en Chine? Autant en France, c'est bon, moi, on est dans un no man's land de mémoire, en tout cas. Est-ce que cette histoire-là, des grands leaders qui font leur classe dans la capitale du monde libre de l'époque, est-ce que cette histoire, elle est connue en Chine?
En Chine, cette histoire est extrêmement travaillée, extrêmement connue. Quasi tous les leaders qui ont vécu ici, on trouve dans les photothèques chinoises des photos, leur destin, leurs lettres. Vous avez aujourd'hui en Chine une historiographie totale, cette présence. Il doit y avoir peut-être plus de 150 ouvrages sur la question. C'est très clair, une histoire géographique, mais en même temps, c'est quand même les fondateurs de la nation chinoise. C'est vraiment l'histoire de quelques hommes qui vont construire le destin d'une nation, et ça se passe dans une ville. Avec un héritage, je rappelle cette chose qui a toujours fasciné les Chinois, c'est pour ça qu'ils venaient ici aussi, la Commune de Paris et la Révolution française. Ils ont appris ici la liberté. Ils ont appris ici une manière aussi de combattre justement ce qui leur semblait pour eux une vassalité par rapport à l'Occident. Ils ont ici permis de rencontrer des intellectuels aussi bien français qu'africains, que maghrébins, et donc de construire le destin pour leur nation dans un lieu qui aurait peut-être été, dans un univers ou un contexte qui aurait peut-être été impossible dans le contexte de la Chine ces années-là. N'oublions pas que la Chine est quasi en guerre civile depuis 1912. Sun Yat-sen, l'opposition entre nationalistes et communistes qui va entraîner jusqu'aux années 49 et même après, si on réfléchit bien, la partition entre Taïwan et la Chine, c'est quasi 30 à 40 ans de guerre civile, sans parler de l'invasion du Japon. Alors qu'ici, il y avait à un moment une sorte de capacité à s'imprégner, à se former politiquement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vient à Paris pour se former quelque part aux indépendances et qu'ils sont déjà dans cette dialectique d'apprendre de Paris, de la capitale, de la liberté, mais aussi du Second Empire colonial, les moyens et les armes pour en sortir. Et quand vous regardez les premières affiches communistes qui vont émerger après la victoire des communistes en 49, en Chine par exemple, vous avez énormément d'affiches chinoises où d'oriflammes chinois écrit en français, il y a écrit « Commune de Paris ». C'est-à-dire que ce modèle de la Commune de Paris était vraiment un modèle politique qui a fonctionné dans les premières vies politiques chinoises. Et ça, nous en France, on l'ignore quasi. C'est pas connu dans le manuel scolaire, c'est pas enseigné, c'est peu vu. Alors que ça, en Chine ou au Vietnam, c'est extrêmement connu.
C'est-à-dire qu'il venait vraiment moins de 50 ans après la Commune à Paris.
Et un siècle après la Révolution française.
C'était tout frais.
Et Paris symbolisait ce paradoxe total. On avait déjà parlé ensemble sur le Paris arabe, une ville paradoxale. Capitale coloniale. Ville de domination, où tous les 10 ans vous avez une exposition coloniale universelle qui quelque part construit son modèle de domination sur le monde, et en même temps, ville de liberté, ville où on apprend quasi à devenir un homme libre, avec les règles de l'Occident, parce qu'on est au creuset des droits de l'homme.
Là, il y a un livre d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Dans ce livre d'histoire commence par le chapitre 13, Révolution bourgeoise britannique, américaine et française. Point 3, la révolution bourgeoise en France.
Voilà. La prise de la Bastille.
Ouais. L'inauguration de l'Assemblée des tiers États de France.
Chine 1999.
À la place de Bastille.
Mais qu'est-ce qui est souligné là?
Ça c'est des points importants. C'est que l'occupation de la place de la Bastille par le peuple parisien signifie le commencement de la révolution bourgeoise de la France.
Voilà la France.
Oui. C'est Robespierre.
Voilà la carte de la France.
Oui.
Tout en chinois, c'est très très
tout en chinois.
Le sacre de Napoléon.
Oui. Et là, nous avons une explication en détail sur la Marseillaise. Et ça, c'est le communisme international.
Marx et Engels.
Le manifeste
du Parti communiste.
Du Parti communiste.
Ça, c'est Paris.
Ça, c'est Paris. Ça, c'est le cimetière de Père Lachaise. Et ça, c'est la commune de Paris.
La commune de Paris, le cimetière du Père Lachaise, qu'on apprend aux enfants, aux petits-enfants chinois.
Ouais.
Voilà. Merci. Thank Comment you. Tu t'appelles?
Ye
Chen Chen. Ye Chen Chen. Ye Chen Chen.
Chi
Chi Ye Chen Chen.
Chi Chi Ye Chen Chen.
Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a déjà des étrangers comme nous qui sont entrés dans votre école ?
Alors, c'était en Chine en 1999, à Wenzhou exactement, et voilà, qui eût cru qu'en se baladant vers la gare de Lyon, à Paris, à la recherche d'une rue disparue, eh ben, on évoquerait l'endroit où naquirent les idées, où furent adoptées des idées qui allaient renverser de cet immense pays, et pas seulement la Chine, mais aussi bien tout le sud-est asiatique. Voilà, c'est un des charmes de cette balade dans le Paris-Asie, Paris-Terre d'Asie.
L'arrivée de 140 000 Chinois en France pendant la guerre, c'est pas un petit débat. C'est-à-dire que c'est une des plus grandes migrations organisées en moins de 2 ans de population asiatique vers l'Occident. Quand ils arrivent à la gare de Lyon, vous avez des articles comme le 116 de la presse, l'Excelsior par exemple, qui les décrivent. Ils arrivent tels des grands régiments dans leur uniforme bleu, prêts à nous aider à vaincre sur l'Allemagne. Mais on sent déjà dans la dialectique des textes ces notions de masse, d'organisation, de... Ils n'arrivent pas comme des migrants classiques, ils sont déjà organisés, sont en rang. Quelque part, il y a déjà quelque chose qui est inquiétant.
C'est qu'on marche tout de suite dans le fantasme et dans le cliché.
Et ça, l'État se rend compte, les chroniqueurs de l'époque, ou la presse, dès 22-23. Et petit à petit, on va voir émerger dans la presse la notion de danger, la notion de rouge dans la cité, voilà, la notion de révolutionnaire potentiel. Puis on commence à savoir, les Ho Chi Minh et autres sont au Parti communiste. Il est au Congrès de Tours.
Les jaunes deviennent péril rouge, la menace rouge.
Voilà, on passe du péril jaune au péril rouge. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que, regardez, vous relisez Perfide, vous relisez Malraux, vous relisez tout ça sur l'ensemble du siècle. Vous vous rendez compte que
quand la Chine se réveillera.
Et en permanence, cette dialectique, crainte, fascination, cette Chine qui nous fascine, mais en même temps qui nous fait peur. Un discours sur, d'un côté, on est fasciné par cette capacité à s'intégrer économiquement, et en même temps, on est paniqué par cette capacité à nous envahir, je dirais d'une certaine manière, sans rentrer dans le jeu de l'intégration républicaine. Quelque part, ils échappent au modèle que la République construit pour ces vagues d'immigrants, et en même temps, c'est ceux qui s'intègrent le mieux. Donc c'est parfaitement paradoxal pour la République, elle ne sait pas comment saisir ce qui pourrait être un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils ont tous les signes d'une intégration parfaitement réussie, et en même temps, ils sont totalement à côté des schémas républicains d'intégration. Par exemple, le débat sur l'intégration, nous ne l'oublions pas, a aussi, d'une certaine manière, une rupture par rapport aux cultures d'origine. Et il est inconcevable pour des Vietnamiens, des Chinois ou des Japonais, par exemple, qui vivent à Paris depuis des années, d'être en rupture avec leur culture et d'origine. Et en même temps, ils répondent à toutes les attentes. Ils bossent, leurs enfants vont à l'école, ils semblent être travailleurs. On a l'impression qu'avec eux, il n'y a pas de problème de criminalité, parce que c'est vrai que vous n'entendez jamais parler des sauvageons asiatiques de banlieue. Bah, c'est jamais
en
dans
le discours. En tout cas, quand on dit sauvageons, c'est tout de suite
marrant, voilà. Des trois couleurs de l'Empire, il y en a une qui disparaît immédiatement, c'est les jaunes. Ils semblent intégrés puisque l'économique prime et que l'économique est le seul mode de lecture.
Je vous coupe Pascal, bonjour, parce que c'est exactement ce qui est en train de passer, l'économique prime. Là, il y a un magasin informatique qui est en train de se faire livrer. Donc c'est pour ça que toute la rue klaxonne, parce que le business marche, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui au niveau de l'économie de la Chine? On sent que ça s'emballe, on sent que l'économie chinoise est en train de dominer le monde. Mais en même temps, on est fasciné, on y va et on vend des Airbus. Et mais en même temps, on en a peur. C'est une double dialectique qui est exactement la même, sauf qu'on est passé du champ du militaire à une guerre économique. Mais en termes de dialectique, si vous lisez la presse aujourd'hui, si vous regardez le rapport à la Chine, c'est à la fois fascination, il faut y aller pour la croissance, il faut y aller pour le business. Et c'est là où se fait la guerre économique d'aujourd'hui.
Merci Pascal Blanchard, merci Éric Dereau, merci à Monsieur Thomas Liang. Le bouquin de Pascal Blanchard, Éric Dereau et toute la bande, c'est Paris Asie, aux éditions de La Découverte. Reporter Guy Ventil, ce soir, un événement très important. Miguel Benassaya, vous l'entendez plus sur France Culture. Heureusement, vous êtes consolé puisque vous avez à sa place Alexandra Adler. Mais Miguel Benassaya, vous pouvez aller le voir dans quelques instants à 20h30 à la Maison de l'Amérique Latine à Paris, 217 boulevard Saint-Germain dans le 5e arrondissement. Il présentera son dernier bouquin, l'ABCDR de l'engagement. Il sera en compagnie de Gilles Luneau, notre ami Gilles Luneau, et Gustave Massia, notre ami Gustave Massia. Voilà, c'est à 20h30, Maison de l'Amérique Latine, 217 boulevard Saint-Germain à Paris. Technique aujourd'hui Clotilde Thomas et Pascal Baldassare. Yann Chouquet, Raphaël Mouter, de Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de la Basse J'y suis. Le numéro du répondeur, vous le saviez, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Dans quelques instants, dans 1 minute 38 secondes de pub, vous retrouverez Frédéric Bonneau et son charivari. On se retrouve demain à 17h pour la Basse J'y suis. Toujours Paris, toujours l'Asie. Salut!